quelques questions posées. La première, c'est d'ordre technique, si vous voulez, qui demanderait beaucoup d'explications si on voulait aller jusqu'au bout. Mais je ne vais pas trop donner d'explications. Pourriez-vous expliquer ce que c'est qu'une ratio ? Ratio entis, ratio veri, ratio boni. D'où est-ce que cela vient ? Est-ce que c'est saint Thomas qui a inventé les rationes ? Est-ce que cela se trouve chez Aristote ou chez d'autres antérieurs à saint Thomas ? Pourquoi est-ce qu'un saint Thomas en parle tout le temps ? Alors, vous voyez que c'est un terme technique, évidemment, chez saint Thomas, ça c'est sûr. J'ai essayé de vous expliquer que ces termes devaient se prendre dans une perspective critique et non pas dans une perspective au sens strict métaphysique, je crois, de plus en plus. Alors, évidemment, ratio traduit logos. C'est sûr, ça traduit logos. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ratio ? C'est là la très grosse difficulté. C'est que ratio veut, je crois, c'est comme ça que je le précise, c'est le fondement de notre concept et de nos concepts les plus élaborés, les plus profonds, notre concept d'être signifie la ratio entis. C'est-à-dire qu'il y a un fondement. Exactement comme il y a un fondement pour un concept universel, il y a un fondement pour un concept universel analogique. Tous nos concepts ont un fondement dans la réalité. Alors, ce n'est plus la quiddité. Si c'était la quiddité, ce serait très simple. Mais on ne peut pas dire la quiddité de l'être. Saint Thomas le dit de temps en temps, mais c'est une formule qui ne va pas très bien. Alors, il dit ratio entis. C'est l'au-delà de la quiddité, dans l'ordre du fondement. C'est pour ça que c'est si difficile à préciser. Je crois que ratio entis est pris toujours comme ce qui fonde notre concept d'être. Alors évidemment, je peux dire que ratio et prix, c'est relatif, vous comprenez. Je ne peux pas parler de la ratio entis sans avoir le concept d'être. C'est l'intelligence qui, en saisissant l'être, saisit la ratio entis. Donc c'est le fondement de ce concept d'être qui a une signification particulière. Et la signification particulière du concept d'être, c'est cette ratio entis. C'est ce fondement. Donc, il n'est saisi qu'à partir de ce concept d'être. Quand je parle de ces rationes convertibles entre elles, je les prends évidemment dans le sens formel de ces concepts d'être, concepts de vrai, concepts qui sont convertibles et dont les fondements, de fait, impliquent cette convertibilité. Et c'est pour ça que c'est assez difficile à préciser. Je crois que ça traduit logos. Le logos, c'est... Alors, le logos, ordinairement, est plus du côté du connaissant, le legein. Mais il y a un fondement dans le réel. Alors, comme il y a un fondement dans le réel, je peux parler de ratio entis. Alors, d'où cela vient ? Ça vient du fait même qu'on conçoit l'être, qu'on conçoit le vrai, qu'on conçoit le bien, et qu'on veut l'exprimer. C'est le legein dernier, dans son fondement ultime. Mais c'est objectif, c'est ça que ça veut dire. C'est que la ratio entis, c'est quelque chose d'objectif. C'est pas quelque chose de purement subjectif. C'est pour ça que c'est la signification qui s'enracine dans la réalité. Alors, c'est saint Thomas qui les a mis en pleine lumière, c'est bien évident. Pourquoi ? Parce que je crois que, en raison de son réalisme métaphysique, saint Thomas a toujours le souci de voir comment tous les concepts s'enracinent dans le réel. Et alors, il y a cet enracinement dans le réel d'où on peut parler des rationes. Alors, est-ce que cela se trouve chez Aristote ? Non, explicitement. Aristote ne parle pas explicitement de cela. On peut dire que c'est vraiment une réflexion qui s'est faite ensuite et progressivement sur ces notions tout à fait premières, sur ces rationes tout à fait premières. Mais c'est, si vous voulez, c'est déjà dans la pensée d'Aristote, dans la mesure où dans Aristote, il y a les pâtés de l'âme. C'est le premier moment de saisir qu'il y a de fait dans l'âme une transformation par rapport au réel. Et alors progressivement, on a précisé ce que c'est que le concept, ce que c'est que cette forme attentionnelle. Mais on ne peut pas dire que c'est explicitement chez Aristote. C'est exactement comme les rapports entre la métaphysique et la critique. Ce n'est pas explicitement chez Aristote et c'est pourtant présent. Et saint Thomas les a sûrement beaucoup plus précisés. Il a été beaucoup plus loin, si vous voulez, dans l'explicitation critique. Et alors, c'est du côté de l'explication critique que nous devons comprendre ces rationes. Pas du côté métaphysique. Du côté métaphysique, on est face au réel et on saisit les principes du réel. Et on ne pense pas à ces rationes. Mais il est évident que ces rationes ne sont saisies que grâce à la connaissance des principes. Vous voyez, au fond, c'est un peu, si vous voulez, pour mieux comprendre, c'est un peu le passage de la saisie des principes propres à la réflexion de l'appréhension qui est présente dans la saisie de ces principes. Ces principes sont saisis dans un jugement. Tout jugement présuppose une appréhension. Chaque fois qu'il y a un jugement nouveau, il y a une appréhension nouvelle. Et je peux mettre en lumière cette appréhension. Et je mets en lumière cette appréhension dans une attitude réflexive critique. J'espère que vous voyez ça à peu près. C'est difficile, il faut aller petit à petit arriver à préciser ce point de vue de ces rationes tel que saint Thomas nous les donne dans le De Veritate, question première, article premier. C'est le lieu de cette réflexion et qui est difficile à bien comprendre, hein, ça c'est sûr, c'est pas commode à bien saisir, c'est comme toujours les rapports entre la métaphysique et les rapports entre la critique, sûrement quelque chose de très important, parce que quand on commence à confondre les deux, je vous l'ai déjà dit, à partir de Suarez on a mis les transcendentaux au point de départ de la métaphysique, et mettre les transcendentaux au point de départ de la métaphysique, c'est commencer la métaphysique par l'idée d'être, l'idée de vrai, l'idée. Alors à partir de ce moment là je crois qu'on tombe dans une rationalisation de la métaphysique, et c'est devant cela que Heidegger a réagi si violemment. Et sa réaction est saine. Je ne commence pas la métaphysique par l'idée d'être. Je ne peux pas. Je ne peux pas commencer la métaphysique par la ratio entis. C'est au fond le résultat dernier, ayant découvert progressivement tous les principes propres, je peux au terme avoir un certain sens de ce que c'est que l'être. J'ai une certaine idée de l'être. Et à ce moment-là, je peux parler de ratio entis. Donc, je n'entre pas plus dans ce sujet, parce que c'est très complexe. Hein. Alors, je reviens si vous voulez. Voulez-vous expliciter l'aspect substantiel de l'essence ? Que représente... Ah oui, alors après c'est autre chose. Donc, c'est la première question. Expliciter l'aspect substantiel de l'essence. Nous sommes partis de l'acte. Tout acte implique, si vous voulez, quand il est complexe, il implique une limite quand il est reçu dans la puissance. Et alors, je peux comprendre à ce moment-là le lien qui existe entre la substance telle qu'elle se trouve réalisée, puisque c'est cette substance-là qui existe. la substance prise comme principe, principe propre, elle est quelque chose d'indivisible. Donc je ne peux pas découvrir dans le principe une potentialité. Ce ne serait plus un principe. Puisque ce qui est en puissance est toujours second. Ce qui est principe est toujours premier. Donc, je dois comprendre que la substance qui est principe propre se trouve réalisée d'une manière complexe. C'est donc le pos de la substance. Mais ce pos de la substance, tel qu'il se trouve réalisé dans notre monde physique, tel qu'il se trouve réalisé en moi-même, je suis dans mon être qui existe actuellement, il y a en moi quelque chose qui est en acte, quelque chose qui est en puissance. Autrement, il n'y aurait pas cette complexité qui est en moi. Je peux comprendre que dans ma réalité actuelle, il y a un principe fondamental substantiel. Cette substance qui existe en moi de cette manière complexe, je peux la regarder par rapport à l'acte. Et je dis à ce moment-là qu'elle est capable d'exister. Oui, je la saisis à partir de l'acte. Et en la saisissant à partir de l'acte et dans la lumière de l'acte, je saisis cet aspect de l'essence dans la substance. Vous voyez, c'est complexe, bien, mais je crois qu'on ne peut pas faire autrement. Autrement, vous regardez l'essence dans une perspective avicénienne. Ce que le premier saint Thomas a fait, il ne faut pas l'oublier, et cette perspective avicénienne de l'essence, c'est un regard théologique. Alors je vous rappelle, si vous voulez, pour ceux qui ne voient pas assez, la perspective d'Avicenne, et puis j'essaierai en face de ça de rappeler la perspective que je vous ai donnée. Parce que le mot essence s'est développé dans cette perspective des théologiens et d'Avicenne, il ne faut pas l'oublier. Chez Aristote, vous avez le tiesti. Alors le tiesti, ça sert à tout. Ça prend des nuances très très diverses. Et donc vous ne pouvez pas dire tiesti égale essence. Ça, c'est tricot. Traduction tricot. N'est-ce pas? C'est très bien. C'est pas si bête. Hein. Mais c'est pas toujours exactement ce que ça veut dire. Alors il faut comprendre. Et c'est chez saint Thomas que se trouve le problème. Hein. Ce serait l'exégèse de saint Thomas qui nous mettrait devant ce problème extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Vous n'avez qu'à lire le DNT Sanctio de saint Thomas pour vous apercevoir le cocktail extraordinaire que fait saint Thomas. C'est génial, mais c'est pas commode à comprendre. Comment saint Thomas se trouve au confluent d'une tradition avicénienne. Et puis saint Thomas va prendre Aristote dans sa pureté. Alors vous comprenez que ça fait quand même un petit cocktail assez curieux. Et alors saint Thomas va garder d'Avicenne l'essence, c'est bien évident. Ça joue un rôle extraordinaire dans saint Thomas. Et il va prendre la philosophie d'Aristote, l'acte, et le point de vue de la puissance. Qui existe aussi chez Avicenne, c'est bien évident. On ne peut pas considérer qu'il y a d'opposition farouche entre les deux. Seulement, c'est qu'Avicenne implique pas mal dans son aristotélisme de néoplatonisme. Alors, il y a le néoplatonisme d'Avicenne que saint Thomas va absorber, il y a le néoplatonisme de Denis que saint Thomas va absorber, il y a le néoplatonisme d'Augustin que saint Thomas va absorber. Ça en fait pas beaucoup, hein. Et c'est vrai, le néoplatonisme chez saint Thomas vient par trois sources différentes. Il y a du néoplatonisme dans saint Augustin, il y a du néoplatonisme dans Denis, il y a du néoplatonisme dans Avicenne. Et saint Thomas prend Aristote, non pas du tout pour supprimer ce néoplatonisme, pour préciser certains problèmes, pour purifier certains problèmes. Et c'est ça la complexité. Je me souviens très bien, le père Chenu disait toujours, quand on regarde saint Thomas, n'oublions pas. Alors lui prenait simplement le trépied. Et on s'amusait toujours avec le trépied de Delphes, vous comprenez bien. Alors il y avait le trépied de saint Thomas. Il y avait Denis, Aristote, Augustin. Alors, vous aviez un très beau triangle. Mais il y a aussi le quatrième. Donc, il faut en ajouter un quatrième, qui est Avicenne. Il ne faut pas l'oublier. Et Avicenne et Aristote, et tout ça fait saint Thomas. Vous comprenez que ça fait quand même quelque chose. Si je regarde les sources, c'est vrai. Si je regarde les sources, première source, qui est celle qui lui est transmise par Albert le Grand. Et Albert le Grand est très très dans un courant augustinien, Denis et Avicenne. Alors c'est plus simple chez Albert le Grand, parce qu'Aristote ne vient pas troubler la fête. Tandis que pour saint Thomas, Aristote vient troubler la fête. Il y a ces trois qui sont dans des courants assez parallèles, différents, hein, Denis, Augustin, c'est pas la même chose non plus qu'Avicenne. Mais vous comprenez que c'est dans ces trois courants, Aristote va tomber là-dessus, saint Thomas va découvrir vraiment, dans ses commentaires sur Aristote, il va découvrir une exigence nouvelle qui va plus loin. Et pourtant, saint Thomas ne s'oppose pas, saint Thomas assimile, hein. Il n'a pas du tout en première attitude de rejeter. Il assimile, il prend tout ça, et puis il essaie de découvrir. C'est pour ça qu'au fond, il y a quelque chose de nouveau comme phénomène chez saint Thomas qui ne peut pas se ramener à ses sources. C'est quelque chose de particulier. L'historien peut bien étudier ses sources, mais il y a le saint Thomas qui assimile tout ça et qui a vécu tout ça, et qui a essayé de comprendre comment on pouvait découvrir ces différents aspects. Alors, regardons Avicenne. Hein, ici. Avicenne considère que les essences éternelles sont pensées par Dieu. Alors, c'est le monde des essences qui est le monde d'une certaine nécessité. Il y a une nécessité du côté des essences. Les essences sont pensées par Dieu. Et les essences vont exister par la volonté de Dieu. Laissez. Vous voyez, le problème de l'essence et de l'existence est regardé à partir du Créateur et à partir de la sagesse du Créateur. La sagesse du Créateur pense les essences. Elles sont pensées éternellement de Dieu. Et l'acte créateur de Dieu, qui implique un acte d'amour et un acte de volonté, communique l'essai à certaines de ces essences. Alors, l'essai implique le point de vue de la contingence. Et c'est pour ça que saint Thomas parlera quelquefois de l'essai, de l'actualité de l'essence et de l'actualité de l'existence. Ce sont des termes qui sont curieux, qui en pur aristotélisme ne vont pas et qui se comprennent très bien dans la pensée d'Avicenne. L'actualité de l'essence, pensée par Dieu, et ça, c'est le monde du nécessaire. Il y a un ordre dans l'univers. Et cet ordre vient des essences. Et puis, il y a une contingence, il y a une corruptibilité. Ça vient de l'existence. Et l'existence vient s'ajouter. L'existence vient s'ajouter à ce monde des essences. Vous voyez, c'est quelque chose de très particulier. C'est quelque chose qui fait que c'est une vision théologique du monde des essences et de l'existence qui vient s'ajouter. Alors, Avicenne, on le sait bien, il est aristotélicien et néoplatonicien. Il est les deux. Alors, les uns diront qu'il est plus aristotélicien, les autres diront qu'il est plus néoplatonicien. Ça. Vous pouvez très bien soutenir les deux thèses. Je crois qu'il est assez néoplatonicien. Mais il est quand même très aristotélicien. Alors, il faut maintenir les deux dans Avicenne. Il faut maintenir. Vous voyez, Finianos, qui enseigne actuellement à Damas et qui a beaucoup étudié Avicenne, qui a étudié ici Avicenne et qui a fait sa thèse ici sur Avicenne, lui était très très saisi par le caractère aristotélicien d'Avicenne. Et dans sa thèse, il a beaucoup insisté là-dessus. C'est le rôle d'une thèse. Hein. Alors on lui a critiqué en disant « Vous ne voyez plus assez le rôle du néoplatonicien. » Et c'est délicat, c'est assez difficile. De bien voir la part dans Avicenne entre Aristote et le néoplatonisme. Ce qui est sûr, c'est que Avicenne est un théologien qui fait sa synthèse à sa manière, essence et essai. Et au fond, c'est l'essence. L'essence correspond, si vous voulez, dans Avicenne, à la nature des choses, à ce qu'il y a de stable, de déterminant. C'est ça l'essence. C'est le monde des essences, c'est un monde nécessaire qui s'ordonne et qui est hiérarchisé. Et ce monde des essences pensé par Dieu, pensé dans la sagesse de Dieu, va exister selon l'acte volontaire de Dieu. Et alors l'essai est contingent, puisqu'il vient s'ajouter. Il vient s'ajouter de l'extérieur. De fait, si nous essayons au plan philosophique, parce que ça c'est une vision théologique, il ne faut pas l'oublier, c'est à partir de la sagesse de Dieu, à partir de la création de Dieu, que Avicenne regarde le monde de cette manière. Et c'est pour ça qu'on a reçu Avicenne, parce qu'il était un théologien. Quand la Sorbonne a réagi contre saint Thomas qui se servait d'Aristote, c'était parce qu'Aristote n'était pas un théologien. Aristote était le païen. Il avait une vision matérialiste des choses, parce qu'il regardait les réalités telles qu'elles étaient. Il ne les regardait pas dans la lumière de Dieu. Il ne les regardait pas dans la sagesse de Dieu. Alors, quand on regarde le problème au plan purement philosophique, je ne peux pas partir des essences. Parce que ça, c'est la vision de la sagesse de Dieu. Qu'est-ce que je vois? J'en pars toujours de ce qui est. Je saisis dans ce qui est, ce qui est et ce qui est mu, ce qui est et ce qui existe et ce qui est mu. Pour les deux aspects. Je découvre dans la réalité qui est mue une nature, une phusis, bon, qui est un principe de détermination. Là, je reste au niveau du monde, de la considération de la philosophie de la nature. Je considère ce qui est mue qui peut être un vivant. À ce moment-là, je parle de l'âme et je parle du corps. Au niveau métaphysique, je découvre l'ousia. Il faut remonter jusque-là hein, pour que nous essayions de comprendre ce que c'est que l'essence. Si on ne remonte pas, on ne comprend pas. Les trois niveaux de considération, et ces trois niveaux de considération sont toujours très importants, c'est toujours à l'égard de la réalité qui existe, c'est-à-dire moi-même, je peux me prendre tout simplement comme sujet de considération, n'est-ce pas ? J'existe, je suis mu, c'est bien évident, je suis mu. Je fais l'expérience d'être mu. Il y a une phusis en moi. Il y a une nature en moi. J'ai une âme spirituelle en moi. J'ai un corps. J'ai une ousia, une substance. Je suis passé de l'âme à l'ousia. C'est-à-dire, j'ai une substance en moi. Tout cela, c'est de l'ordre de la détermination. C'est le principe selon la forme. Ou c'est la forme elle-même, la nature, la phusis forme, la phusis matière. Donc vous voyez, je suis dans l'ordre de ces principes premiers, de ces principes propres, de ce qui est mu, de ce qui se meut, de ce qui est. Et je saisis toujours une détermination fondamentale. Cette détermination fondamentale est ou la nature forme, ou l'âme, ou l'ousia. À des niveaux différents. Alors, c'est la même réalité, comprenez bien, hein, c'est la même réalité, c'est vous. Vous saisissez tout ça dans la même réalité, mais vous la saisissez à des niveaux différents, à des niveaux d'intelligibilité différentes. Et ces trois principes, je peux regarder comment ils se trouvent réalisés. Alors, vous savez très bien que le comment joue surtout au niveau métaphysique, parce que plus je creuse dans le principe, plus il y a une distance entre le principe et le comment. Au niveau physique, le point de vue du principe et du comment sont très proches. Je ne me pose pas beaucoup la question du comment, parce que tout de suite, je saisis matière et forme. Alors je peux évidemment regarder comment cette nature existe, c'est sûr. Et alors à ce moment-là, j'ai son mouvement. Mais la distance entre le tiesti, donc, que Tricot traduit l'essence. Vous comprenez ? Alors à ce moment-là, je ne comprends plus rien du tout. Je m'excuse pour Tricot, mais je ne comprends plus rien du tout. Parce que si je mets essence, je ne vois plus du tout. Je vois. Alors, il faut supprimer, reprendre le tiesti. J'aime mieux ça. reprendre honnêtement cette interrogation du TST. Et puis essayer de voir comment, de fait, l'IA se trouve réalisée. Elle se trouve réalisée dans un monde physique. Donc elle se trouve réalisée en impliquant un corps, en impliquant une matière. Et elle se trouve réalisée dans une substance individuelle. Vous voyez qu'ici, j'ai tout de suite, dès que je regarde le point de vue de l'individu, le principe IA assume la matière. Ce n'est plus seulement la phusis forme, c'est la phusis matière aussi. Ce n'est plus seulement l'âme, c'est le corps aussi. Donc quand je suis en face du pos, j'ai une réalité individuelle. Je peux me poser la question, comment cette substance existe-t-elle? Alors à ce moment-là, si je me pose la question de cette substance qui existe, je peux, à l'intérieur de cette substance, par rapport à cette substance, regarder son acte et sa puissance. Et j'ai à ce moment-là le point de vue de ce second mode de l'acte, l'essai et l'essence. Mais c'est une lecture à l'intérieur même de cette substance individualisée qui existe. Pour que vous compreniez un petit peu mieux, je prends ce point de vue-là. Quand vous voulez définir ce que c'est que l'homme, quand vous voulez vous définir vous-même, vous dites que vous êtes une âme et un corps. Et votre corps est essentiel à ce que vous êtes. Vous ne dites pas « je ne suis qu'une âme ». La belle âme, c'est bien, c'est très beau. Je ne suis pas qu'une âme, je suis un corps et une âme. Et mon âme existe dans mon corps. Tandis que quand je saisis l'ousia, la substance, comme principe, je ne saisis que l'âme. Vous voyez le passage entre les deux. Au niveau du principe du TST, je suis dans une abstraction plus profonde. Et je ne saisis que le TST, donc le principe. Et je laisse à côté le corps, puisqu'il n'est pas principe. Mon corps n'est pas principe d'être. Avec tout le respect que je lui dois. Mon corps n'est pas principe d'être. Mon principe d'être, c'est mon âme. Mais si je regarde toute la structure de mon être, si je regarde l'essence de mon être, la structure profonde de mon être, c'est mon âme et mon corps. Et donc vous voyez qu'à ce moment-là, je suis revenu au composé substance et la matière, et je saisis dans ce composé qui est la substance individualisée, je saisis, je peux très bien la considérer et saisir en elle ce qui l'actue, l'essai, et ce qui est actué en elle. Et ce qui est actué en elle, c'est l'essence. Et l'essence implique non seulement le point de vue de l'âme, mais l'âme et le corps. Non seulement la substance, mais aussi l'individuation. Du moins, l'individuation implique aussi la matière. Parce que dans l'essence, je ne regarde pas l'individu, hein. Je ne regarde pas l'individu comme tel, je regarde sa capacité à exister. Vous voyez, j'espère, pourquoi l'essence s'enracine toujours dans le point de vue de la substance, ou dans le point de vue de la nature, ou dans le point de vue de l'âme et du corps. Parce que vous pouvez la regarder aux trois niveaux, l'essence. Hein. Ça, c'est l'avantage de l'essence, c'est qu'elle peut être regardée aux trois niveaux. Et c'est pour ça que saint Thomas n'hésitera pas dans le DNT Sensia dire que l'essence, c'est la nature, c'est la substance, c'est la crudité. Vous pouvez la regarder à ce niveau-ci, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Mais en métaphysique, quand je fais la distinction de l'essai et de l'essence, je la regarde à ce niveau-là. Donc au niveau substantiel. Bon, je continue. Que représente l'artiste ayant un thème qui cherche une inspiration et celui qui trouve une telle une idée auquel ses expériences internes, externes et la matière de son art s'ordonnent à la lumière de l'être en acte et de l'être en puissance. Oui, ça répond, vous voyez, c'était la dernière question, vous vous souvenez? Hier, je suis resté sur cette question et je crois que toutes les questions portent là-dessus. Alors, on va revenir sur cette question du troisième modalité de l'acte de la puissance. Je reprends. Je vous disais qu'après avoir saisi l'être en acte et l'être en puissance, donc avoir fait cet effort de l'induction, je regarde les modalités. J'ai la première modalité, l'essai et l'essence. J'espère que maintenant vous voyez mieux le soubassement de l'essence. Le soubassement de l'essence, qui est la substance composée, qui est le pose de la substance. Bon, deuxièmement, je vois le point de vue de la beauté et de la volonté. Volonté, esprit, ou esprit, volonté. Troisièmement, je vois le point de vue de la vérité, et je vois que la vérité actue ce que le point de vue de l'intelligence dans le point de vue du jugement. Et puis je me pose la question, trois primes, est-ce que l'idée est-elle une modalité de l'acte? Correspondant à l'idée, il y aurait l'intellect pratique. L'intellect pratique impliquant le point de vue de l'imagination, et ainsi de suite. L'idée naît à l'intérieur de l'inspiration. Alors, j'avais pris après quatrième modalité, les opérations vitales, et puis nos facultés. Et cinquième, le point de vue du mouvement. Au fond, les deux derniers n'offrent pas de difficultés. C'est facile à comprendre, hein? Facile à comprendre. La difficulté, c'est évidemment ici. Faut-il ajouter, et ça c'est un gros problème, faut-il ajouter l'idée, comme modalité particulière? Alors, on avait mis ici, est-ce que le beau, au même titre que l'idéa, ne pourrait être rattaché à la troisième modalité de l'acte? Donc on mettrait ici le beau. J'ai mis la bonté, la vérité, alors on peut mettre le beau, la bonté, je veux dire, liée à l'idéa. L'idéa étant de fait ce qui, en moi, est quelque chose de particulier et qui me rattacherait à tout un ordre donné. La question se pose, hein. Ça je suis tout à fait d'accord que la question se pose et qu'elle est assez difficile et assez complexe à répondre. Je vous disais hier que pour y répondre, il faut voir si l'idéa est rattachée directement à l'acte, au plan métaphysique. Et c'est l'acte que je dois regarder, la puissance est second. Hein. Je la saisis toujours après. Donc tout le problème, c'est de savoir si l'idéa représente une modalité particulière de l'acte métaphysique. Alors, vous voyez ce qui me gêne énormément. Ce qui pose un problème, c'est de savoir, l'idéa est au niveau de l'intentionnalité. Alors vous allez me dire, la vérité est au niveau... Ah non, la vérité est prise comme perfection, comme le jugement en acte. Perfection du jugement. Je ne prends pas la vérité, si vous voulez, comme uniquement dans l'ordre de l'intentionnalité. Ça, c'est autre chose. Tandis que l'idéa est dans l'ordre de l'intentionnalité. Est-ce que l'intentionnalité se rattache directement à l'acte, au plan métaphysique? Oui. Est-ce que je peux considérer l'intentionnalité comme un mode de l'acte? L'intentionnalité ne peut être un mode de l'acte que par l'opération de l'esprit, et non pas directement. C'est le fruit d'une opération. Alors, parce que c'est le fruit d'une opération, l'idéa n'est pas immédiatement une division de l'être en acte et en puissance. Parce que c'est de l'ordre de l'intentionnalité. Oui. Si je faisais de l'idéa, c'est tentant, hein, c'est très tentant. Il y a la petite séduction du beau qui revient tout le temps. Je crois que Maritain en ferait un mode de l'acte. Je crois. C'est tout à fait dans sa perspective. C'est toujours intéressant, c'est pas pour me contrer, mais simplement parce que c'est intéressant de comparer. C'est comparer à l'intérieur du thomisme, il y a beaucoup de demeures, hein, faut pas l'oublier. Alors, il y a cette demeure particulière à l'intérieur du thomisme, tous ceux qui veulent faire du beau un transcendantal. Et donc, le beau est rattaché directement à l'être. Et si le beau est rattaché directement à l'être, évidemment, d'une certaine manière, l'idéa est rattachée directement à l'acte. Et alors, je crains qu'à ce moment-là, il y ait un manque de distinction entre l'ordre réel et l'ordre de l'intentionnalité. Donc, première petite remarque, hein, c'est celle-là. C'est, je ne vous dis pas de défendre votre position là-dessus. Hein, on peut très bien être intelligent et défendre Maritain, c'est ça, et aller jusqu'au bout de la défense de Maritain, dire que l'idéa est vraiment une modalité particulière de l'acte. Je mets quand même 3 primes, hein, vous voyez bien. Mais je pourrais mettre 4, puis 5 et 6. Mais je ne crois pas à cause de ça, parce que l'idéa est tout de suite dans l'ordre de l'intentionnalité. Et donc, si c'est immédiatement dans l'ordre de l'intentionnalité, ce n'est pas rattaché directement à la distinction de l'être en acte et en puissance. L'être en acte et en puissance est une distinction de l'être, de ce qui est. Alors, si c'est une distinction directe de ce qui est se distingue en acte et en puissance, il ne faut pas identifier une modalité de l'être avec quelque chose qui est de l'ordre intentionnel. Je ne peux pas le rattacher directement. Je peux le rattacher par sa source. Par sa source, c'est-à-dire par l'acte d'intelligence qui est source de cette inspiration. Mais alors à ce moment-là, il n'y a plus, si vous voulez, ça revient tout simplement, une des opérations vitales, peut-être l'opération vitale la plus parfaite. Et je ne dis pas l'opération vitale uniquement de l'esprit. C'est là la très grosse différence entre la vérité et la bonté. La vérité et la bonté font appel à l'esprit dans ce qu'il a de plus pur, tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de l'idéa, ça fait appel à l'intellect pratique lié à l'imagination. Je ne peux pas comprendre l'idéa uniquement par le point de vue de l'esprit. C'est l'esprit lié à l'imaginaire. Et alors, parce que c'est l'esprit lié à l'imaginaire, vous comprenez que je ne suis plus en présence de l'esprit pur, je suis en présence de l'homme. C'est du reste ce que Maritain reconnaît. Et c'est pour ça qu'il dit que le beau est un transcendantal qui caractérise le point de vue de l'homme. Mais alors, il faut se demander si, dès que ça regarde l'homme, est-ce que ça peut être encore un transcendantal? À ce moment-là, je mettrai l'anthropologie égale la métaphysique. Oui, c'est la tendance, hein? L'anthropologie égalerait la métaphysique. Tout ce qui est de l'homme serait immédiatement réductible à l'être. Il y aurait une réduction immédiate. Or, justement, quand je parle de l'imagination et quand je parle donc du sensible, c'est-à-dire de l'homme dans sa composition, je ne suis plus immédiatement au niveau de l'être. Et je ne suis plus immédiatement au niveau de l'esprit. Je suis en présence d'un esprit incarné. Et alors, si je suis en présence d'un esprit incarné, ce n'est plus immédiatement un transcendantal. Mais, comprenons bien, ici, je ne suis pas au niveau des transcendantaux. Je suis au niveau des modalités de l'acte. Alors, le raisonnement premier, c'est que l'idéa est de l'ordre de l'intentionnalité et ne peut pas être immédiatement rattaché à l'acte. L'idéa est rattachée à l'acte par l'opération vitale, comme le fruit de l'opération vitale la plus parfaite. Alors là, je serais tout à fait d'accord. Qu'on puisse distinguer à l'intérieur du numéro 4 un 4'. On va le faire descendre d'un numéro, oui. Et je le mettrai ici, 4', c'est-à-dire ce qui explicite de la manière la plus parfaite l'opération vitale. Quelle est mon opération vitale la plus parfaite? C'est mon inspiration. C'est même très intéressant à voir ça. C'est l'opération vitale la plus parfaite. C'est pas l'esprit, c'est l'opération vitale la plus parfaite. Et le fruit de cette opération vitale, c'est l'idéa. Et donc, à l'intérieur de l'opération vitale par rapport à nos facultés, je peux très bien expliciter ce qu'il y a de plus parfait parmi les opérations vitales. Ça touche l'homme comme le vivant. L'homme est le vivant par excellence, hein, parmi tous les vivants que je peux constater. C'est le vivant par excellence. Si c'est le vivant par excellence, il est intéressant de voir où son opération vitale est la plus parfaite. Eh bien, son opération vitale, comme opération vitale, est la plus parfaite dans l'ordre de l'inspiration. Tandis que quand je regarde l'esprit, je suis au-delà des opérations vitales. C'est bien une opération vitale, mais ce n'est plus comme opération vitale que je la regarde, c'est comme esprit. Tu vois la double considération, je vous l'ai déjà dit, n'est-ce pas ? C'est très intéressant et très important quand il s'agit du nous, quand il s'agit de l'intel du nous, de le regarder de deux manières. Je le regarde, le nous, comme puissance vitale, le point de vue de la vie, et je regarde le nous comme esprit. Si je regarde le nous comme esprit, je le regarde face à l'être. Et si je le regarde comme opération vitale, je le regarde dans son imbalance. Hegel, Aristote. C'est intéressant de toujours se rappeler ça, parce que c'est toujours intéressant de voir comment il se retrouve. Hein. Et il se retrouve dans le nous. Il ne faut pas l'oublier. Là, au point de vue du nous, il se retrouve. Ce sont les deux grands philosophes du nous et du devenir du nous. Alors, Hegel, c'est le point de vue de la vie. Et alors, on comprend, du côté de la vie, qu'est-ce qu'il y a de plus parfait dans l'opération vitale ? C'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Ça, c'est là où on voit très bien un Nietzsche développant le point de vue de l'esprit dans son inspiration. C'est ce qu'il y a de plus parfait du côté vital. Parce que c'est du côté de l'inspiration que vous découvrez le plus la subjectivité transcendantale de l'esprit. Je dirais que c'est même là uniquement où la subjectivité transcendantale est vraie. La subjectivité transcendantale de l'intelligence est vraie du côté de l'inspiration. Et ça, c'est très exact, puisque du côté de l'inspiration, mon intelligence se donne à elle-même la signification de ce qu'elle connaît. Et c'est l'idéal. Tandis qu'au contraire, quand je regarde l'esprit face à l'être, je regarde toujours l'esprit dépendant de l'être. L'être est antérieur. Tandis que dans l'inspiration, l'idéal, elle naît d'inspiration. Elle naît donc de la vie. Et qu'est-ce qui donne la signification à l'idéa ? C'est pas la réalité, puisque la réalité n'existe pas. C'est elle-même. Elle-même se donne à elle-même sa propre signification. C'est ce qui explique l'autonomie de l'artiste. Il est parfaitement autonome, subjectivité transcendantale, de l'intelligence prise par le point de vue de l'inspiration, qui se donne à elle-même sa propre signification. Vous voyez ? Alors là, je vois comment il y a quelque chose de très vrai. Alors, où situer cet acte ? Faut-il le situer du côté de l'esprit ? Non. Faut-il le situer directement du côté de l'être ? Non. Faut le situer du côté de la vie. Et c'est très vrai que l'inspiration représente une activité vitale très parfaite. Une activité vitale qui implique donc une des modalités de l'être, une des modalités de l'acte. C'est une opération vitale la plus parfaite comme opération vitale, parce qu'elle est la plus autonome, la plus immanente, donne à elle-même sa propre signification. C'est quand même très extraordinaire. Et c'est vrai que dans l'inspiration, et c'est ce qui séduit l'inspiration, je me donne à moi-même la propre signification de mon idée. Parce que l'idée est au niveau du possible. Oui ? Oui.
Est-ce qu'il faudrait pas mettre le contenu d'expérience artistique qui va être.
Oui, non, c'est parce que c'est pour le rattacher à la vie.
Hein. Si on prend l'idée,
oui, l'idée a son contenu, n'est-ce pas ? Son contenu est de l'ordre de l'intentionnalité, mais c'est pour la rattacher à sa source. Et sa source, c'est l'intellect pratique, lié à l'imaginaire. Vous voyez ? L'intellect pratique plongé dans l'imaginaire, si vous voulez. Mais c'est l'intellect pratique, sa source. C'est pour ça que c'est le nous qui n'est pas dans toute sa pureté. Le nous en toute sa pureté, c'est le nous, esprit face à l'être. Alors, il est encore esprit, c'est encore une vie spirituelle, c'est évident. L'artiste vit une vie spirituelle, Mais comparativement à l'esprit dans toute sa pureté, ce n'est pas regarder l'être, c'est au contraire se développer lui-même, vous voyez, dans sa vitalité propre.